Alors nous allons aborder avec notre invité d'aujourd'hui un aspect de ce mythe du chiffonnage que nous n'avons pas du tout encore abordé parce qu'il n'entre absolument pas dans mes compétences. C'est celui du chiffonnier dans la chanson. Et notre invité est... Alors je sais qu'il y a beaucoup de chansons, qu'il est très présent dans cette culture de la chanson. Et notre invité est Romain Benigni, qui est maître de conférence à la Sorbonne, à Paris 4, juste à côté, en langue française, et dont les travaux portent sur la chanson populaire et sur la poésie, dans ses rapports avec la chanson populaire de cette époque, de ce milieu du 19e siècle, de Hugo et Nerval jusqu'à Rimbaud. Il a fait une thèse sur les chansons dites populaires imprimées à Paris entre 1848 et 1851. Ben, c'est justement les années que j'évoquais aujourd'hui, les années de ces... Alors, je les évoquais du point de vue de ces salons autour de la photographie du petit chiffonnier de Charles Nègre. Je lui donne donc tout de suite la parole, puisqu'il est déjà tard, et son titre est « Habit galon des vieux chiffons », le cri du chiffonnier, la chanson et les chiffonniers. À vous.
Merci. Professeur, je vous remercie aussi de m'avoir invité à parler dans ce séminaire. Mesdames, messieurs, le jeudi 3 juin 1847, Jules Michelet donne la quatrième leçon de son cours sur la Révolution, ici même, au Collège de France. La semaine suivante, le 7 juin 1847, un certain Louis-Marie Ponty, qui lui est alors inconnu, lui écrit pour le remercier et lui faire part de la coïncidence de ses sentiments avec les siens. De cette première lettre naît une relation épisodique qui dure près d'un an, jusqu'au 8 avril 1848 au moins. Après réception d'un ensemble de 3 pièces de vers, Michelet écrit à Louis-Marie Ponty que ses chansons sont excellentes et lui propose de les remettre à Béranger, qui est le grand chansonnier du 19e, comme vous le savez, ou alors d'y aller lui-même. Son correspondant est en effet chansonnier. Vous voyez Louis-Marie Ponty ici, dans une photo de Burkel, Louis-Marie Ponty à la fin de sa vie, et ensuite dans une gravure de Barré, qui est signée de la main de Ponty lui-même. Le 21 janvier 1848, Michelet et Ponty se rencontre non loin du Collège de France, au numéro 12 de la rue des Postes, aujourd'hui rue Laumont. Le fait est connu, les lettres sont consignées dans la correspondance de Michelet et la rencontre dans son journal. Une lettre inédite de Ponty, cependant, manque à l'histoire des échanges entre les deux hommes. Dans cette lettre, la syntaxe est parfois assez erratique et la ponctuation presque absente. Pourtant, au cinquième feuillet, après avoir commencé son récit autobiographique et avoir mentionné sa première incarcération au dépôt de Saint-Denis, Louis-Marie Ponty joue de la ponctuation pour mettre en valeur un élément crucial de son récit. Je vous prie de m'excuser, la citation est un peu longue, mais je crois qu'elle est importante et vous pouvez en suivre une partie sur le diaporama. « Il y avait si longtemps que je ne m'étais promené que cet amour me reprit de plus belle, et pour en jouir à mon aise et trancher net avec une police qui s'y serait toujours opposée, une fois après m'y être livré toute une nuit à la belle étoile et couru le risque de retomber dans les griffes des gens de monsieur le préfet, je me fis, et pourquoi ne le dirais-je pas, quelle honte en avoir, puisque c'est à ce moyen que je dois la réalisation d'une partie des idées qui me travaillaient, partie la plus précieuse, et dont la réalisation a tendu à me moraliser davantage et mieux que les heures étouffantes d'un étouffant atelier, et que les verrous sous lesquels ont renfermé le vagabond inoffensif. Je me fis donc chiffonnier. Et ce qui vous fera rire, chiffonnier poète. Du moins, dans ce métier, je pérégrinais tant qu'il me plaisait, et je me donnais moi-même, furetant, bouquinant, ramassant dans tous les coins le peu d'instruction dont je sentais croître en moi le besoin, et qui voulait à toute force être satisfait pour atteindre à griffonner, rimailler tant soit passablement, me souciant fort peu de l'infime échelon que j'occupais et des railleries des sots qui me poursuivaient de leurs sarcasmes, comme les chiens de Paris de leurs aboiements. » Ponty était donc chansonnier et chiffonnier, et il se dit chiffonnier-poète. On remarque les majuscules qu'il met à cette suite de substantifs. chiffonnier-poète. Les deux états qui sont constitutifs de sa singularité individuelle et intellectuelle sont affichés, malgré les précautions oratoires, avec une forme de fierté sociale. Ponty revendique ce qu'il appelle son infimité parce qu'elle lui a donné la liberté dont il avait besoin comme poète chansonnier. On sait peu de choses de Louis-Marie Ponty. Deux notices lui sont consacrées, l'une par Eugène Baillet, qui était son ami, en 1898, dans un livre de témoignages intitulé « De quelques ouvriers poètes ». L'autre a été écrite après celle de Baillet, en est très inspirée, par Henri Brel dit Bachimon, dans son projet de galerie chansonnière. C'est donc en fait la lettre à Michelet qui contient les renseignements les plus précieux. Ponty a été chiffonnier jusqu'en 1828 environ, date de l'ordonnance de police que vous connaissez. Tout allait bien donc pour ma liberté lorsqu'en 1828, la police, toujours soigneuse du bon ordre, se mit à réglementer notre classe à laquelle elle n'avait jamais pensé et qui ne pensait point non plus à elle. Il fallut donc se voir médaillée, numérotée, absolument comme toutes les autres corporations soumises à ce genre de règlement. Dès lors, plus de liberté, plus de rondes nocturnes si ce n'est fort restreinte, partant plus de bonheur. Je mis donc hotte et crochet au rancard et me fis ce que vous savez, monsieur, que je fus. Et cela parce que dans ce métier, on a bien de la fatigue, sans doute, mais aussi parce que cela ne dure pas longtemps et que je pouvais encore consacrer mes assez longs loisirs à cette rage de rimailler, de lire, de voir et de connaître qui ne désemparait pas. L'emploi auquel Ponty fait allusion, ce que vous savez, monsieur, que je fus, est celui de vidangeur. Cette profession, qui consistait à vider les fosses d'aisance des Parisiens et à transporter les excrétats jusqu'à la voirie, a été déjà mentionnée à de nombreuses reprises dans le cours d'Antoine Compagnon. Elle vous est donc bien connue et je n'y reviendrai pas. Il semble important de bien comprendre en revanche ce que la lettre de Ponty laisse entrevoir des rapports entre la chanson ou la poésie et la chiffonnerie. Tout ce que Ponty raconte à Michelet vise, sous couvert d'autobiographie, à justifier cette double voie qu'il a poursuivie, à la fois producteur de vers et ramasseur d'immondices. S'il est devenu par la suite gardien de nuit aux ateliers du chemin de fer de la rive droite de Versailles, grâce à Olinde Rodrigue, l'éditeur des Poésies sociales des ouvriers, en 1841, Ponty se justifie en 1847 d'avoir conservé près de 30 ans des activités aussi dépréciées, tout en déplorant dans le même temps de les avoir abandonnées. C'est ainsi la contradiction des différentes représentations du chiffonnier, ça risque d'arriver souvent, la contradiction des différentes représentations du chiffonnier qui est visible chez lui. La chiffonnerie lui donne un statut de marginal épris de liberté et dénué d'intérêt pour les choses matérielles, mais dans le même temps, elle l'éloigne des ambitions littéraires dont ses œuvres sont la preuve. On retrouve cette tension dans les rapports qu'entretient Ponty avec l'un de ses camarades restés chiffonniers. À la fin de sa lettre, il demande à Michelet « Mais croirez-vous bien qu'au sein de cette existence paisible que l'âge et ma naissante famille me commandent de leur conserver, je me surprends encore parfois à regretter ce temps où, vagabond, je jouissais de cette liberté sans frein que je m'étais donnée. Jugez-en par ces stances, je ne citerai pas les stances, elles ne nous intéressent pas spécifiquement aujourd'hui, jugez-en par ces stances que j'adressais il y a un an à un de mes vieux camarades qui n'a jamais voulu, lui, faire autre chose que de porter la hotte et le crochet. Cœur d'or, tout de dévouement, mais malheureusement entraîné, englouti, abruti par les mœurs d'ivrogne de mes anciens confrères et que j'ai vu, lui, pleurer plus d'une fois quand d'un sens rassis, il écoutait mes fraternelles remontrances. » Entre les remontrances adressées à celui qui a conservé les mœurs du chiffonnier et l'attrait de la liberté que le garde des chemins de fer regrette, on lit la complexité d'une position sociale ambiguë. D'une part, la liberté propre au chiffonnier est bénéfique à Ponty parce qu'elle lui donne une vision du monde originale et elle lui donne aussi le temps de la développer. Mais d'autre part, l'aisance matérielle d'un emploi stable lui apporte une sérénité favorable à la composition des vers et à son rôle social de père de famille. À cela s'ajoute le paradoxe de la valeur propre au chiffonnier-poète qui tire sa singularité de son infimité, pour reprendre les mots de Ponty, mais qui ne peut être admis comme véritable poète qu'en réduisant en partie, au moins, cette singularité. La tension et en même temps l'interdépendance entre les deux états chez Ponty sont rendues perceptibles encore de façon assez saugrenue par le document assez rare que voici. Sur ce billet, qui émane de l'inspection de la vidange et du curage des égouts, on voit en date du 1er mars 1873 une autorisation de faire fermer une fosse après vidange. Au dos de ce billet, Ponty a écrit quelques vers. Je l'ai dit avec vous. « Ce papier que j'aime et vénère me fait plaisir à voir et me peint mon passé. Tant heureux ou bien harassé, je rentrais dans mon trou, puante et solitaire. J'étais bien embréné, mais que physiquement robuste et fort je bravais la misère. Car je n'en avais pas, j'étais toujours flambant. Ô bon temps, faut-il qu'on te perde ? Ô oui, quoiqu'au sein de la merde, j'étais moins emmerdé, certes, qu'en ce moment. Et ces quelques vers sont datés du 29 septembre 1873. Ponty a logé au Batignolles jusqu'à la fin de sa vie, et le coupon ne peut donc pas avoir été délivré pour sa propre fausse d'aisance. Un tel document, récupéré à la manière d'un vieux chiffon et utilisé quelques mois plus tard, montre de manière saisissante l'alliance de la chiffonnerie, de la poésie et de la vidange chez le chansonnier Ponty. Mais d'un point de vue plus général, ce qui est manifesté avec force dans les textes qu'on vient de voir est l'alliance profonde qui semble exister entre chanson et chiffonnerie au XIXe siècle. C'est à la compréhension de cette alliance que cet exposé entend contribuer. Ponty ne saurait représenter à lui seul l'ensemble des éléments qui font de la chiffonnerie et de la chanson des pratiques liées l'une à l'autre à Paris pendant tout le XIXe siècle. Que ces deux pratiques soient très proches, cela est immédiatement visible sur les plans légal, matériel et géographique. On se rappelle les mots de Ponty à propos de l'ordonnance de police du 1er septembre 1828. Les mots de Ponty sont donc « Il fallut donc se voir médaillé, numéroté, absolument comme toutes les autres corporations soumises à ce genre de règlement. » Au XIXe siècle, les corporations soumises à ce genre de règlement sont celles qui s'exercent dans la rue, comme vous le savez, et les chanteurs de rue y étaient inclus avant même les chiffonniers. Nombre de professions qui s'exercent dans les rues de la capitale et sont considérées comme ambulantes sont soumises à l'obligation de porter médaille, comme les chiffonniers. Et cela, au moins depuis l'ordonnance de police du 29 juillet 1811 sur ceux qu'on appelait alors les commissionnaires. C'est somme toute assez tardivement, comme le dit l'ordonnance de 1828, que ce traitement est appliqué aux chiffonniers. Et lorsque c'est fait en 1828, ça fait déjà 12 ans qu'il a été étendu aux professions de joueurs d'orgue et de chanteurs ambulants. Comme toutes les professions de rue, celles du divertissement ambulant sont soumises à l'autorité de la municipalité. Ce sont les joueurs d'orgue et les chanteurs, et eux seuls, qui sont autorisés à chanter dans la rue. Leur activité est encadrée depuis l'ordonnance du 4 juillet 1816 sur les joueurs d'orgue dans les rues et les places publiques. L'assimilation des chanteurs de rue avec les saltimbanques, les joueurs d'orgue et les musiciens ambulants est d'ailleurs explicitée dans le titre de l'ordonnance de 1831 qui est signée par le préfet Gisquet. L'industrie chansonnière est donc, comme celle des chiffonniers, surveillée par la police très tôt dans le siècle. Et pour cause, si les chanteurs de rue sont moins nombreux et moins importants économiquement que les chiffonniers, leur nombre va également croissant et leur activité échappe en grande partie au contrôle de la police. La succession des ordonnances, des instructions ministérielles, des notes au service, des lettres circulaires et l'évolution même des règles édictées montrent la difficulté que les autorités rencontrent lorsqu'il s'agit de contraindre le phénomène chansonnier, considéré comme excessivement subversif ou comme excessivement proche de la mendicité. Les quelques chiffres dont on dispose concernant les musiciens et chanteurs de rue confrontés aux exigences policières, signalent le dynamisme de ces activités. Le 6 avril 1822, une lettre du préfet de Lavaux au commissaire de police évoque les chanteurs dont le nombre n'excède pas 40. Mais en 1831, alors qu'une nouvelle ordonnance publiée en 1828 ne contenait aucun élargissement flagrant du statut des artistes de rue, en 1831, donc, la police dénombre sur les ordres de Gisquet 732 musiciens ambulants, dont 106 joueurs d'orgue et 135 chanteurs. C'est entre autres parce que le nombre s'en est accru d'une manière fâcheuse que Gisquet décide de publier l'ordonnance du 14 décembre 1831. Depuis 1816, donc, toutes les ordonnances visent à limiter le nombre des chanteurs de rue. Mais en 1872, les statistiques de la préfecture de police indiquent que les musiciens ambulants sont au nombre de 1121. Et l'on peut supposer que la quantité de chanteurs a continué de progresser avec celle des autres professions dans les années qui ont suivi. Il est à peu près certain que les chiffres de la police sont bien en dessous de la réalité, et il est très clair d'après les témoignages d'époque que les chanteurs de rue font à Paris jusqu'aux années 1880 partie du quotidien. Comme beaucoup de chiffonniers, les chanteurs de rue exercent en dépit des ordonnances de police, et comme beaucoup de chiffonniers, certains peuvent se créer une place dans une maison ou un quartier, à l'instar de ces chiffonniers placiers dont il a déjà été question à plusieurs reprises. En 1851, le critique musical Léon Escudier explique par exemple que le musicien de basse-cour, enfin celui qu'il appelle le musicien de basse-cour parce qu'il chante dans les cours des immeubles, le musicien de basse-cour n'a ses entrées que dans les maisons où les concierges complaisants veulent bien les admettre, et ils viennent régulièrement, une à deux fois dans la semaine, à tour de rôle, piper les sous du locataire. Dans la suite de son article, il évoque un chanteur qui s'accompagne dans une cour à la guitare et deux enfants qui chantent une chanson sur Napoléon II. C'est d'une scène anecdotique, témoin de la coprésence quotidienne des chanteurs joueurs d'orgue et des chiffonniers dans les rues de la capitale, que j'ai tiré le titre de cet exposé. La Lionne de la place Maubert, de Jules Dornet, représentée pour la première fois en 1860 au Théâtre de Belleville, à côté de la courtille, dont il sera question tout à l'heure, fait dialoguer à la scène 3 de l'acte 3 plusieurs petits industriels parisiens, dont des chiffonniers, sur la place Maubert, place Maubert dont vous savez qu'elle était connue pour être un des lieux où les chiffonniers étaient le plus concentrés. Un joueur d'orgue vient à passer. Un des personnages, qui s'appelle La Sauterelle, s'écrie alors « Ah, c'est le joueur d'orgue !» Bel organe lui répond « Faites passer le joueur d'orgue, faut lui faire chanter la nouvelle ronde de Maubert !» Et tous les industriels se levant « Oui, oui, la ronde !» C'est finalement l'un des industriels rassemblés qui se met à chanter. L'industriel s'appelle Lugubre et il chante sur un air nouveau de Monsieur Ventéjoul. Alors, on n'en est pas encore au refrain, mais je vous lis le couplet. Aux rives gauches de la Seine, non loin de Mouffetard et d'Enfer, il est une plage malsaine qu'on appelle le quartier Maubert. C'est un dédale où se débrouille le fil de la nécessité. Dans cet audit noir comme houille, ah, fichtra, faut voir comme grouille le peuple de ce royaume crotté. Puis il faut les entendre. Et tous alors entonnent le refrain en chœur, et ce refrain, c'est celui que vous avez sur le diaporama. Ah, peau de lapin, ferraille à vendre, verre cassé des vieux chapeaux. Ah, oh, habit galon, des vieux chiffons, recarleurs de souliers. Les recarleurs de souliers, c'était ceux qui réparaient les souliers. Il y a un poème de Mallarmé sur la question. Bon poussier de motte, le poussier de motte, c'est le tabac. Vous vous rappelez que les chiffonniers parfois ramassaient des vieux bouts de tabac. Ohé, les chiffonniers, rois de tous ces métiers, vous marchez les premiers. Ô noir démon de la crotte, ô corsaire des ruisseaux, ô compagnon de la hotte, ohé, nocturne corbeau, apôtre de la taverne, du 3-6 et du Pichenet, le chiffonnier seul gouverne au royaume du déchet. Ô chevalier de la lanterne, ô chevalier du crochet. On remarque évidemment dans ce refrain le grand nombre d'expressions synonymiques qui désignent les chiffonniers. Lorsqu'on a apôtre de la taverne, du 3-6 et du Pichenet, le 3-6 désigne en argot l'eau de vie de mauvaise qualité et le Pichenet est un petit vin qu'on consomme aux barrières de Paris. On voit aussi à la fin de cet extrait la rime déchet-crochet qui fait apparaître le mot déchet dont Sabine Barthes disait à la première séance de ce séminaire qu'il était rare avant la fin du siècle. Ce que montre cette scène, mis à part la place centrale des chiffonniers dans les métiers de la rue parisienne qui était évoquée tout à l'heure, c'est le caractère très banal de la rencontre avec un chanteur de rue et la communauté socio-culturelle que la pièce expose et qui unit les petits industriels, l'artiste ambulant et l'auteur de la chanson lui-même. Les chanteurs de rue appartiennent en effet, comme les chiffonniers, à cette classe très large des travailleurs proches de l'indigence dont le métier n'est pas toujours bien distinct d'une forme de mendicité. Une circulaire qui accompagne l'ordonnance de 1831 et qui est destinée au commissaire de police précise ainsi « Vous veillerez à ce que l'exercice de chacune des professions concernées par l'ordonnance ne dégénère pas en un état de mendicité sur la voie publique, principalement à l'égard des chanteurs sans instrument. » Pour les chiffonniers, de manière similaire, 3 semaines après l'ordonnance de 1828, le maire du 9e arrondissement de Paris écrit au préfet de police pour l'informer que, je cite, « les chiffonniers inscrits viennent requérir leur certificat d'indigence dans l'espoir d'obtenir gratis leur médaille, médaille qui leur est refusée à ce titre. » Le 9e arrondissement est l'un des plus pauvres de Paris. C'est l'arrondissement qui comprenait entre autres l'Hôtel de Ville, l'Île de la Cité. Il arrive probablement dans la hiérarchie de la misère juste après le 12e arrondissement dont il a été maintes fois question dans le cours d'Antoine Compagnon. Pour cette raison même, de l'aveu du maire du 9e arrondissement, nombre de ses habitants sont des chiffonniers. Or, on sait que beaucoup de chanteurs et de chansonniers habitaient également le 9e et le 12e arrondissement. La proximité sociale et géographique des chanteurs et des chiffonniers est évoquée par exemple dans un ouvrage de 1868 qui s'intitule « Voleurs et mendiants » qui est un essai anonyme sur la misère à Paris. La section 8, appelée « Les métiers de pauvres » s'ouvre sur un chapitre qui concerne les chanteurs ambulants et les fait évoluer dans le milieu des chiffonniers. Donc, le chapitre s'intitule « Les chanteurs ambulants » et vous voyez qu'il est question de la montagne Sainte-Geneviève entre l'école polytechnique et la rue Saint-Victor. Là demeuraient de nombreux chiffonniers, etc. Dans une circulaire de police de 1832, on apprend que les chanteurs et musiciens, pour la plupart, logent en garni. C'est justement de ces logements de pauvres qu'il est question dans Voleurs et mendiants. Le garni est aussi l'objet d'une chanson de Jules Moineau intitulée La maison du chiffonnier, qui date de 1845. Je lis les deux couplets que j'ai encadrés. Notre chambre au 7e étage revenait à 3 francs par mois, compris l'impôt et l'éclairage, éclairage omis bien des fois. Aussi, pour punir la portière, au lieu d'allonger les 3 francs, on rossait le propriétaire dans la maison de mes parents. Nous dormions sans fermer la porte, attendu que mes chers auteurs se gouvernaient de telle sorte qu'ils ne craignaient pas les voleurs. Ceux-ci, malgré leur tas d'astuces, n'auraient trouvé, hormis les gens, qu'un chien, des chiffons et des puces dans la maison de mes parents. Les 3 francs par mois renvoient aux garnis de deuxième catégorie, d'après les statistiques de l'industrie à Paris. Ces garnis, loués au mois, sont ceux que les témoins attribuent souvent aux chiffonniers, à l'instar de Berthaud, qui, dans Les Français peints par eux-mêmes, parle aussi de ses logements à 4 francs par mois. On trouve également dans la chanson de Moineau plusieurs éléments de description assez communs dans l'évocation des logements de chiffonniers. La pauvreté, avec l'absence de biens à voler, l'insalubrité, puisqu'il y a une absence d'éclairage, un entassement de chiffons à trier et des puces, et également la présence d'un chien dont les chiffonniers, comme vous le savez, n'avaient plus le droit de se faire accompagner après l'ordonnance de 1828. La chanson est construite sur un pittoresque de la misère qui se trouve aussi bien dans le logement du chiffonnier que dans son caractère lui-même ou dans son activité. Dans Voleurs et mendiants, l'auteur dit que les rez-de-chaussée de ces bouges qui accueillaient les chanteurs ambulants et les chiffonniers étaient presque tous des cabarets. La statistique de l'industrie à Paris confirme le fait et explique que parmi les 3 types de propriétaires de garnis, le plus répandu est celui des gargotiers et des marchands de vin. La chanson de Moineau que vous avez ici est sur l'air du Cabaret des Trois Lurons, qui est une chanson très célèbre de Charles Colmans, et on voit avec l'utilisation de cet air pour la description d'une chanson d'une maison de chiffonniers, l'association qui peut être faite spontanément entre le logement des chiffonniers et le cabaret. Ça nous amène donc au dernier lieu qui associe les sociabilités chansonnières et chiffonnières, le cabaret. Il y aura peut-être quelques redites avec le cours de M. Compagnon, mais je crois que ce que je vais développer sera en fait assez complémentaire. Dans la première moitié du 19e siècle, à l'époque où les cafés-concerts ne se sont pas encore imposés, puisqu'ils s'imposent aux alentours de 1851, les principaux lieux de création de chansons sont, outre les théâtres, les débits de boissons, parce qu'ils accueillent ce qu'on appelait alors les goguettes. Les goguettes sont des réunions chantantes, hebdomadaires ou bi-hebdomadaires. Elles se tiennent presque toujours dans des cabarets et permettent aux participants, dont la majorité sont ouvriers à partir de la monarchie de Juillet, de chanter ou d'écouter chanter des chansons, le plus souvent originales, en consommant du vin à bon marché. Elles se développent à partir de la Restauration et deviennent un phénomène important à partir des années 1820. Un des meilleurs témoins de la chanson au XIXe siècle, Théophile Marion du Mersan, écrit dans la préface d'une anthologie, qui est rééditée ensuite de nombreuses fois à partir de 1843, qu'au milieu des années 1830, il y en avait, des goguettes, pas moins de 480 à Paris et dans la banlieue. Ce dénombrement est sûrement excessif et inexact, mais il donne une idée de l'ampleur du phénomène pour les contemporains. Louis-Agathe Berthaud, qui écrit le chapitre sur les chiffonniers dans Les Français peints par eux-mêmes, a donné également, dans la même série, une étude sur les goguettes. Vous voyez ici la première page à gauche, la première page donc, de l'étude de Berthaud, et à droite, une illustration de Gavarni qui représente un type de goguettier. Vous voyez sur l'image qui suit, une illustration donc, de Daumier qui représente également un type de goguettier. Cette image est tirée de Paris Chantant, qui est un recueil de chansons et de témoignages sur la chanson datant de 1845. On voit sur les deux images l'inspiration du chanteur populaire, les yeux vers le ciel, la main en l'air. Sur l'image de Gavarni, on voit même que ce chanteur populaire est en blues qui est la tribu de l'ouvrier. Et on voit également sur les deux images la pipe, qui est un des attributs de l'ouvrier, et le pichenet dont il était question tout à l'heure, le pichenet qu'on buvait dans les cabarets de chiffonniers et dans les cabarets où exerçaient les goguettiers. Les goguettes, en raison de leur caractère ouvrier et de la fréquence des couplets politiques qui y sont chantés, sont surveillés de près par la police à partir des années 1820. Le nombre des participants en est limité légalement à 19, mais il est évident que tous les rassemblements ne respectaient pas ces restrictions policières. Certains parlent d'une 60aine de membres. Et on voit sur cette illustration qui est aussi tirée de Paris Chantant qu'il y a effectivement beaucoup plus de 19 membres à cette soirée de goguettes présidée par des dames. La plupart des auteurs qui produisent des chansons jusqu'aux années 1870 ont fréquenté occasionnellement ou régulièrement ces réunions chantantes. Or, comme on l'a vu, les goguettes avaient lieu dans des débits de boissons et souvent dans les mêmes cabarets que ceux où se réunissaient les chiffonniers. La fréquentation des cabarets par les chiffonniers, on en a parlé tout à l'heure, est un véritable lieu commun que l'on trouve chez de très nombreux auteurs. Frégier dit en 1838 que les chiffonniers ont ainsi que les ouvriers l'habitude de fréquenter les cabarets et les lieux où l'on débite des liqueurs fortes. Au début des années 1840, dans son étude, Berthaud affirme que Paris a produit des cabaretiers tout exprès pour les chiffonniers, les cabaretiers abrutissant les chiffonniers avec l'alcool et leur servant de marchands de sommeil. Les chiffonniers sont censés, d'après les témoignages, consommer presque exclusivement de l'eau de vie. C'est chez Larousse qu'on trouve la formulation la plus explicite de cet autre lieu commun à propos du cabaret des chiffonniers. Il en existe encore, de ces cabarets où l'on peut voir grouiller une clientèle tirée des plus bas-fonds de la société. Ainsi, dirigez-vous vers le quartier Mouffetard, pénétrez, si vous l'osez, dans la rue Neuve-Saint-Médard et aventurez-vous enfin, puisque vous y êtes, dans le cabaret des chiffonniers. Un cabaret humide, sale, malsain, infect, où l'on ne mange qu'avec ses doigts, où l'on ne boit que de l'eau de vie, rien que de l'eau de vie, à un sou le verre, qu'on appelle que le jaunier, car le langage de ces gens-là est tout métaphorique et pittoresque. Mais ne prolongeons pas davantage notre visite en ce lieu. On aura remarqué le ton bonimenteur de la description et la répétition amplificatrice de la restriction « que de l'eau de vie, rien que de l'eau de vie ». Cabaret, eau de vie et langage singulier, tous ces éléments se retrouvent dans la description des différents cabarets de chiffonniers évoqués par Larousse et par de nombreux auteurs avant et après lui. Il y a le Lapin Blanc, devenu célèbre avec les Mystères de Paris de Gensu, le Tapis Franc, dont le nom est tiré du terme d'argot tapis franc, qui désigne un cabaret mal fréquenté, et la Californie, située barrière du Maine. La Californie sera ensuite imitée par un cabaret qui s'appellera la Californie des Deux Moulins, et je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure quand M. Compagnon a montré une image, enfin, un passage de Privat d'Anglemont qui évoquait la Cité Dorée. La Cité Dorée était située justement barrière des Deux Moulins, et donc la Californie des Deux Moulins est effectivement un cabaret de chiffonnier. Chacun de ces cabarets est évoqué dans plusieurs chansons qui, généralement, évoquent également des chiffonniers. Je ne développerai qu'un exemple, malheureusement c'est le même que celui qui a déjà été développé tout à l'heure, mais c'est là que c'est complémentaire, l'exemple du cabaret de Paul Niquet. Au cabaret de Paul Niquet, qui se trouvait rue aux Fers près des Halles, Nerval dit dans les nuits d'octobre qu'un comptoir immense partage en deux la salle et que 7 ou 8 chiffonnières, habituées de l'endroit, font tapisserie sur un banc opposé au comptoir. Ce cabaret apparaît au moins dans 2 chansons. La première, datant de 1833, est anonyme et est censée avoir été composée par un chiffonnier. Elle s'appelle « Résolution d'un chiffonnier ». Elle dit au premier couplet « J'aime mieux vider mon pichet que de me mêler de politique ou bien licher mon sou de cric sur le comptoir à Paul Niquet. » La cric, d'après les excentricités du langage de Larchet, désigne l'eau de vie. Licher signifie boire ou boire avec délectation. On verra que ce mot réapparaît dans une autre chanson, enfin dans plusieurs chansons. Dans une chanson plus tardive, écrite par un chansonnier du nom de Jules Janin, homonyme de l'auteur de L'Âne mort, il est question de la vie de Manon la chiffonnière, dont le premier vers nous apprend qu'elle est née dans un sale mastroquet. Je vous cite un couplet de cette chanson. « Elle étrenna le couloir de Paul Niquet, de mémoire camphrière, en y poussant un précoce hoquet dans le mannequin de sa grand-mère. » Alors le mannequin, vous savez que c'est la haute du chiffonnier, donc c'est une famille de chiffonniers, et donc « de mémoire camphrière », ça renvoie à la mémoire des cabaretiers, puisque le camphrier était celui qui était le tenancier du débit de boisson. Larousse permet par ailleurs de comprendre mieux le premier vers en expliquant que l'établissement de Paul Niquet était un long couloir d'allée, d'où le Elle étrenna le couloir de Paul Niquet. Ce cabaret de Paul Niquet était considéré comme un assommoir. Le nom assommoir est dérivé par métonymie de celui qui était donné à l'eau de vie qu'on y vendait. Or, le premier cabaret à avoir porté ce nom, d'après Viermaître, est celui de la rue de la Corderie, dont le fondateur est un dénommé Montier. Baillet, l'ami de Ponty, donne une longue description de cet antre des chiffonniers dans ses extraits de l'histoire de la goguette. La célébrité de l'assommoir de Montier a conduit d'autres cabaretiers à ouvrir sous ce nom des établissements qui accueillaient chiffonniers et chansonniers. Le plus connu de ces imitateurs est celui qu'on appelait l'assommoir de Belleville. L'assommoir de Belleville était célèbre parmi les chansonniers du XIXe siècle parce qu'un des plus éminents participants de la goguette, Auguste Loisnel, a composé une chanson presque intégralement en argot à son sujet. La chanson, qui est publiée en 1848, mais qui date probablement de quelques années auparavant, indique en épigraphe « Romance trouvée dans les valades de Fanfan Chaloupe, Chifferton, canet d'une apoplexie de cochon à l'âge de 73 longes, à la lourde du sieur Rifodenou Manzing, à l'enseigne de la sauterelle éventrée, barrière de la Courtille. Poivrier, prier pour le repos de son âme et brailler le refrain de sa goualante à tire-larigot. Alors, dans les valades de Fanfan Chaloupe, c'est dans les poches de Fanfan Chaloupe, Chifferton, chiffonnier, mais ça vous le saviez déjà, canet, mort, apoplexie de cochon, une grave apoplexie, à l'âge de 73 longes, 73 ans, à la lourde, à la porte, du sieur Rifodenou Manzing, réchauffez-nous, cabaretier, et ensuite poivrier, ça signifie ivrogne, et évidemment, c'est transparent, brailler le refrain de sa goualante à tire-larigot, hurler le refrain de sa chanson à n'en plus pouvoir. L'Assommoir de Belleville est donc censé être la chanson écrite par un chiffonnier, en argot, sur un cabaret de la Courtille, qui était l'endroit le plus réputé de Paris, Paul Niquet. La crique, d'après les excentricités du langage de Larchet, désigne l'eau de vie. Licher signifie boire ou boire avec délectation. On verra que ce mot réapparaît dans une autre chanson, enfin dans plusieurs chansons. Dans une chanson plus tardive, écrite par un chansonnier du nom de Jules Janin, homonyme de l'auteur de L'Âne mort, il est question de la vie de Manon la chiffonnière, dont le premier vers nous apprend qu'elle est née dans un sale mastroquet. Je vous cite un couplet de cette chanson. « Elle étrenna le couloir de Paul Niquet, de mémoire camphrière, en y poussant un précoce hoquet dans le mannequin de sa grand-mère. » Alors le mannequin, vous savez que c'est la haute du chiffonnier, donc c'est une famille de chiffonniers. Et donc, de mémoire camphrière, ça renvoie à la mémoire des cabaretiers, puisque le camphrier était celui qui était le tenancier du débit de boisson. Larousse permet par ailleurs de comprendre mieux le premier vers en expliquant que l'établissement de Paul Niquet était un long couloir d'allée, d'où le « Elle étrenna le couloir de Paul Niquet ». Ce cabaret de Paul Niquet était considéré comme un assommoir. Le nom assommoir est dérivé par métonymie de celui qui était donné à l'eau de vie qu'on y vendait. Or, le premier cabaret à avoir porté ce nom, d'après Viermaître, est celui de la rue de la Corderie, dont le fondateur est un dénommé Montier. Baillet, l'ami de Ponty, donne une longue description de cet antre des chiffonniers dans ses extraits de l'histoire de la goguette. La célébrité de l'assommoir de Montier a conduit d'autres cabaretiers à ouvrir sous ce nom des établissements qui accueillaient chiffonniers et chansonniers. Le plus connu de ces imitateurs est celui qu'on appelait l'assommoir de Belleville. L'assommoir de Belleville était célèbre parmi les chansonniers du XIXe siècle parce qu'un des plus éminents participants de la goguette, Auguste Loisnel, a composé une chanson presque intégralement en argot à son sujet. La chanson, qui est publiée en 1848, mais qui date probablement de quelques années auparavant, indique en épigraphe « Romance trouvée dans les valades de Fanfan Chaloupe, Chifferton, canet d'une apoplexie de cochon à l'âge de 73 longes, à la lourde du sieur Rifodenou Manzing, à l'enseigne de la sauterelle éventrée, barrière de la Courtille. Poivrier, prier pour le repos de son âme et brailler le refrain de sa goualante à tire-larigot. » Alors, dans les valades de Fanfan Chaloupe, c'est dans les poches de Fanfan Chaloupe, Chifferton, chiffonnier, mais ça vous le saviez déjà, canet, mort, apoplexie de cochon, une grave apoplexie, à l'âge de 73 longes, 73 ans, à la lourde, à la porte, du sieur Rifodenou Manzing, réchauffez-nous, cabaretier, et ensuite poivrier, ça signifie ivrogne, et évidemment, c'est transparent, brailler le refrain de sa goualante à tire-larigot, hurler le refrain de sa chanson à n'en plus pouvoir. L'Assommoir de Belleville est donc censé être la chanson écrite par un chiffonnier, en argot, sur un cabaret de la Courtille, qui était l'endroit le plus réputé de Paris pour son carnaval, ses débits de poisson et son ambiance populaire. La chanson commence par quelques vers, un bifin qui n'avait que dire rade, je vais vous montrer un chouette courant pour abreuver les camarades, au plus bablot, c'est délirant. Donc bifin, c'est les chiffonniers, hein, et on leur montre un courant, c'est un courant d'eau de vie qui pourra abreuver les camarades au plus bas prix. Dans les paroles de la chanson, on retrouve le petit fat d'odaf, c'est-à-dire la rasade d'eau de vie, et la lichance, dérivée du verbe licher qu'on a vu plus haut. Les cabarets et l'enivrement par l'eau de vie sont tellement ancrés dans les représentations des bifins que ce n'est pas un hasard si en 1882, Vallès, qui refuse le statut de prolétaire aux chiffonniers, le fait en évoquant leur alcoolisme dans un article intitulé « L'assommoir des chiffonniers ». Les cabarets qu'on appelait assommoirs viennent montrer cependant à quel point les chanteurs et les chansonniers peuvent se sentir proches des chiffonniers, à côté desquels ils vivent parfois, qu'ils côtoient dans les sociétés chantantes et qui représentent pour eux, à une époque d'émergence de la notion de chanson populaire, ce qu'il y a de plus peuple. L'idée de chanson populaire émerge au début du XIXe siècle en raison de trois facteurs convergents. Premier facteur, la recherche de l'âme nationale manifestée par des productions traditionnelles, recherche qui est héritée de Herder et des frères Grimm via Madame de Staël. Deuxième facteur, l'avènement du peuple comme entité sociale et politique après la Révolution française. Troisième facteur, l'idée qu'il peut exister un art populaire, et plus particulièrement même un art ouvrier, créé par le peuple, pour le peuple et à propos du peuple. C'est justement au sujet de cette question du peuple qu'on peut se rappeler l'échange entre Ponty et Michelet. Ce qui lie les deux hommes est l'intérêt pour cette entité qu'ils appellent le peuple. Le chiffonnier intéresse Michelet parce qu'il est peuple. Ponty, lui aussi, s'adresse au professeur parce que le professeur, après la première lettre, lui a offert sa grande œuvre de 1846 dans laquelle il affirme être fils du peuple. Lorsque Ponty évoque les idées que le professeur et lui ont en commun, celles-ci concernent le besoin qu'éprouve le peuple d'une éducation toute républicaine pour atteindre à ce parfait bonheur auquel, de l'adolescence à la tombe, il ne cesse d'aspirer. Or, pour les deux hommes, le lien le plus direct qui existe avec le peuple, c'est la chanson. L'idée que le chansonnier et le chiffonnier sont deux espèces populaires apparentées naît à la fin des années 1820. On la trouve dans le texte des chansons, mais aussi dans le discours sur la production chansonnière. Les chansons sont entre autres considérées comme populaires parce qu'elles sont souvent le produit d'auteurs qui n'appartiennent pas à l'élite sociale des grandes villes. Elles sont tributaires de la vie des rues et se développent là où officie entre autres le chiffonnier. C'est ce qu'explique notamment le journaliste Victor Fournel en 1854. Tout le monde sait aussi bien que moi que la plupart des grands chansonniers passés, pour ne point parler d'aujourd'hui, Collet, Panard, Désaugier, Debrault, n'étaient pas des hommes d'une haute naissance ni d'une éducation fort distinguée. On pourrait citer bien des noms dans les plus bas rangs à côté de Liard, le chiffonnier poète, un homme vraiment de la rue celui-là, et non pas de ce faux peuple à moitié instruit et à moitié philosophe pour qui ce titre de plébéien n'est qu'une réclame habile. Les chansons les plus répandues et les plus populaires ne sont-elles pas nées pour la plupart d'auteurs inconnus ? Je passe. Elles sont venues au monde dans un grenier, dans un cabaret, au coin d'une borne, au fond d'un atelier, je ne sais où. Voix partie de la foule et que la foule répète, chant dont la poésie exciterait les dédains d'un élève de quatrième un peu avancé, mais où le peuple se reconnaît avec ses goûts et son esprit, ses instincts, ses haines et ses amours. Deux éléments importants, à mon sens, dans ce passage, la mise en avant du cliché au tout début du passage, tout le monde sait aussi bien que moi, qui montre que cette évocation et cette analyse du phénomène chansonnier ne sont pas dues au seul Victor Fournel. Et deuxième élément, les différents lieux qui sont indiqués comme propices à la naissance d'une chanson. Il y a l'atelier qui situe la chanson dans le monde ouvrier. Vous vous rappelez l'étouffant atelier dont parlait Ponty et qui rejetait Ponty en revendiquant son statut de chiffonnier au début de cet exposé. Donc l'atelier, mais il y a aussi le grenier qui renvoie au garni qu'on a vu plus haut. Il renvoie au garni, mais on l'appelle grenier probablement aussi parce qu'une chanson très célèbre de Béranger renvoyait au grenier, hein, dans un grenier qu'on est bien à 20 ans. On a aussi le cabaret et le coin d'une borne. Tous ces éléments font naître et évoluer la chanson donc dans le milieu des chiffonniers. De fait, dans les rues de Paris, les chansons imprimées sur des feuilles volantes se trouvent posées à cru sur les parapets et garanties contre le vent par des fragments de silex ramassés sur la voie publique. On les voit suspendues à des ficelles entre les maisons qui ont des jardins et elles tapissent les clôtures en planches. C'est ce qui conduit Charles Nisard, dont j'ai tiré ces éléments de description, à faire de la chanson la muse pariétaire, du nom de certaines plantes qui croient dans les lieux humides et voisins des habitations, envahit les vieux murs et fleurit jusque sur les gravois. Les chansons imprimées peuvent ainsi se ramasser parfois dans les rues de Paris, et Debois, contemporain d'Émile Debrault, écrit dans Le Bon Savetier « Le soulier rose et la botte, comme plus d'un chansonnier, iront finir dans la hotte du chiffonnier. » Pour les contemporains, il paraît évident que l'inspiration chansonnière vient en partie de la rue, de ceux qui y travaillent et des bouts qui s'y forment. Les textes doivent, pour parler au peuple, en être proches. Pour cela, il leur faut adopter parfois une poétique de la trivialité. La mission du chansonnier peut donc être conçue métaphoriquement comme celle du chiffonnier. Il s'agit de ramasser dans les rues, là où vit le peuple le plus infime, pour parler comme Ponty, les idées qui feront des chansons. Cela est très clairement exprimé par Béranger dans une lettre à Chateaubriand, datée d'août 1832. « Je vais, comme je vous l'ai dit, publier dans quelques mois mon dernier recueil de chansons. Vous pensez bien que celle dont votre nom a fait le succès y figurera. Mais j'ai peur que vous ne vous y trouviez en bien mauvaise compagnie. Le goût que j'ai pour la poésie populaire me souffle souvent d'étranges choses. Mon antipathie pour le solennel affecté, si opposée au génie de notre langue, fait toujours dans mes chants suivre les tons graves de quelques notes burlesquement accentuées. » quoique habilement ces disparates ne soient pas sans but, je conçois pour vous autres gens d'en haut, je conçois que vous autres gens d'en haut y trouviez à redire. Que faire à cela ? J'ai voulu essayer de transporter la poésie dans les carrefours et j'ai été conduit à la chercher jusque dans le ruisseau. Qui dit chansonnier, dit chiffonnier. Doit-on être surpris que ma pauvre muse n'ait pas toujours une tunique bien propre ? Le moraliste des rues doit attraper plus d'une éclaboussure. Qui dit chansonnier, dit chiffonnier. L'analogie ne pouvait pas être formulée plus explicitement. On voit poindre également, à la fin de ce passage, à propos du moraliste des rues, la figure du chiffonnier philosophe qui est extrêmement répandue et que l'on retrouve sans cesse dans les chansons pendant tout le siècle. Béranger, celui qui est le chansonnier le plus connu de tout le XIXe siècle, peut-être avec Eugène Potier et Jean-Baptiste Clément, Béranger, qui était en tout cas le plus grand chansonnier à l'époque où il écrivait, se revendique donc de la chiffonnerie. Pourtant, les chiffonniers n'apparaissent quasiment pas dans ses œuvres. Le chansonnier qui a, le premier, il me semble, fait des chiffonniers un objet de chanson, est en fait Émile Debrault, qui a été cité à plusieurs reprises déjà. Celui-ci, dont Béranger connaissait l'importance, puisqu'il écrit une chanson prospectus pour la première édition posthume de ses œuvres en 1831, était une grande figure des goguettes. D'après Vapereau, il était appelé le Béranger de la canaille. D'après Larousse, le peuple admira Béranger un peu sur parole, mais il comprit, il aima Debrault. Béranger dit que les chansons de Debrault étaient un sujet d'étude pour lui, parce qu'il était plus à portée qu'il ne l'était lui-même, Béranger, d'étudier les classes auxquelles il s'était adressé si souvent. Si l'on en croit ces témoignages, on peut penser que c'est le statut social de Debrault et sa veine politique qui l'ont conduit à prendre pour objet l'industrie de la chiffonnerie, avant même la vogue lancée par la pièce de Théolon et Crétu en 1826. Dès ses chansons nationales de 1822, Debrault donne deux textes qui évoquent les chiffonniers. Le premier est une chanson grivoise intitulée Le chiffonnier, dans lequel une femme s'adresse en langage poissard à un biffin. Bon, je passe peut-être les citations parce qu'il ne reste pas énormément de temps. Ce texte inaugure une veine que l'on retrouve dans les années 1830 et 1840 avec des chansons comme Les malheurs d'un chiffonnier, Le chiffonnier et la marchande d'Amadou ou encore La rue Trognon et La rue d'Avignon qui évoquent les mœurs amoureuses et sexuelles des chiffonniers, souvent lestes, en mentionnant certains éléments comme le mannequin, la lanterne, le croc, la mauvaise odeur, etc., pour donner une couleur pittoresque. Plus importante est la seconde chanson chiffonnière du recueil de Debrault. Elle s'intitule « La ripopée », en un seul mot. Ripopée est le nom qui était donné au vin de piètre qualité. Dans cette chanson comique, un chiffonnier du nom de La ripopée s'adresse à un autre chiffonnier qu'il appelle Fanfan et lui rappelle leurs exploits. Là, on voit également un parallèle entre la situation du chiffonnier et qui serait une dégradation burlesque de l'épopée napoléonienne, puisque La ripopée est en fait une parodie d'une chanson extrêmement célèbre de Debrault au XIXe siècle qui s'appelle « T'en souviens-tu » et qui est une évocation de l'épopée napoléonienne. Ce texte est certes burlesque, néanmoins, pour la première fois en chanson à ma connaissance, il donne la parole à un chiffonnier qui évoque la courtille, le rogom, la bière et le bâton pointu. En 1832, lorsqu'en plein choléra, un chiffonnier prend la plume pour s'en prendre au préfet Gisquet lors de la conspiration des tombereaux, il signe Fanfan l'allumette et donne en première page de sa protestation publique une citation de Debrault, que vous voyez sur le diaporama. La citation est signée Feu Debrault. C'est à la courtille qu'on retrouve dans l'assommoir de Belleville le chiffonnier de Loinel, en 1849. Or, le chiffonnier de Loinel s'appelle Fanfan Chaloupe, probablement en référence au premier Fanfan à qui s'adresse la ripopée. On le voit, la nouveauté énonciative de la chanson de Debrault, où un chiffonnier parle à la première personne, semble ouvrir la voie à de nombreux textes dans les années à venir, et on voit aussi, ce faisant, ce qu'expliquait Antoine Compagnon tout à l'heure, c'est-à-dire le filtre du mythe qui en fait se surimpose à la représentation du chiffonnier. C'est peut-être l'influence de la chanson de Debrault qui, ajoutée à l'évolution politique de la fin des années 20, a entraîné certains chiffonniers, dont Ponty, à écrire des chansons. La première personne est une des grandes spécificités de la chanson sur les chiffonniers. Là où, dans les textes mentionnés jusqu'ici dans le cours d'Antoine Compagnon, les chiffonniers font l'objet d'enquêtes ou de rencontres nocturnes, toujours à la fois curieuses et en même temps réticentes, la chanson, elle, se donne la plupart du temps comme une expérience de vie chiffonnière donnée de l'intérieur. À l'autre bout du siècle, la chanson dite réaliste d'Aristide Bruant fait entendre encore un récit de chiffonnier à la première personne, du singulier ou du pluriel, dans « À Saint-Ouen ». Je passe un peu rapidement. L'énonciation à la première personne n'est cependant pas la seule contribution de Debrault à l'histoire de la chanson chiffonnière. À la suite des deux ordonnances de police successives qui, en 1827 et 1828, condamnent la pratique des gratteurs de ruisseaux et réglementent celle des chiffonniers, il écrit plusieurs chansons de Brault. Là, c'est ce qu'il y a à l'écran, c'est la chanson de Brault, hein, faut pas confondre. La première des deux chansons s'intitule « Les ravageurs » et explique que les gratteurs de ruisseaux produisent moins de ravages sociaux que la plupart des élites parisiennes. La deuxième, qui s'appelle « Les chiffonniers », offre un éloge paradoxal des biffins en leur faisant attribuer par un locuteur réactionnaire toutes les libertés politiques dues au rayonnement de l'imprimé. La même année, De Brault donne les doléances d'un chiffonnier sur la suppression de la distribution de comestibles aux Champs-Élysées à la Saint-Charles, où il fait s'exprimer, à nouveau à la première personne, un chiffonnier affamé. Dans le cas de De Brault, la première personne est évidemment fictive. Elle l'est également dans de nombreux textes de chansons postérieures, notamment dans les trois chansons qui font parler un chiffonnier et qui y ont été présentées dans les sociétés chantantes du caveau en 1834, 1842 et 1849. Elle l'est encore dans les deux romans intitulés Le chiffonnier philosophe, créés en 1858 et 1864. Néanmoins, il est possible que plusieurs textes publiés avant la Deuxième République soient véritablement l'œuvre de chiffonnier. Et alors là, je vais en citer quelques-uns. En 1827, paraît une complainte sur la loi dite de justice et d'amour signée par un chiffonnier troubadour de la place Maubert. En 1830, peu après les Trois Glorieuses, une chanson analogue aux circonstances par un chiffonnier qui signe Bernard, ex-chasseur à cheval de la vieille garde. Et là, on se rappelle ce que disait Antoine Compagnon tout à l'heure sur ces demi-soldes qui pouvaient devenir chiffonniers. Ensuite, on a une grande complainte sur la Révolution de 1830 qui est dédiée par un chiffonnier à ses amis du même commerce. On a déjà mentionné la chanson de 1832 signée Fanfan l'allumette. Et ensuite, en 1833 et 1845, on a également d'autres chansons qui sont signées par des chiffonniers. Mis à part une chanson qui est une réclame pour un chiffonnier du nom de Boude, on remarque que c'est surtout autour de 1830, et donc peu après les chansons de De Brault, que ces textes paraissent. On remarque également que toutes ces chansons ont un contenu politique. Il semble donc que la chanson de chiffonnier se soit développée comme la chanson de Goguette pendant la fin de la Restauration et la monarchie de Juillet, et que, comme elle, elle ait occasionné l'expression politique d'individus généralement privés de représentation publique par voie d'imprimé. L'âge d'or des relations entre la chanson et la chiffonnerie se situe donc entre les années 1820 et la fin des années 1840. À la toute fin de cette période, en 1849, paraît une chanson sur laquelle je voudrais terminer cet exposé. Elle est de Vinsart, chansonnier saint-simonien, qui a encouragé Ponty à l'écriture, et elle s'intitule « La lanterne du chiffonnier ». Elle se chante sur l'air de « C'est un long la landerirette », qui est un air ancien déjà utilisé par de nombreux chansonniers, dont Béranger, et qui est un air très en vogue pendant la Deuxième République. Je tiens à mentionner cet air à nouveau parce qu'on voit avec la réutilisation des airs une pratique généralisée du réemploi dans la chanson qui évidemment renforce l'analogie entre la chanson et la chiffonnerie. Voici donc cette chanson, La lanterne du chiffonnier. D'une verve hyperbolique, Besson le diapason, un trop grand feu poétique effarouche la chanson. Par lui, le clair devient terne. Or, muse du chansonnier, pour aujourd'hui, prends la lanterne du chiffonnier. Hâtons-nous, la nuit est sombre, Paris, l'immense chaos, a vu s'enfouir dans l'ombre les rires et les sanglots. C'est l'heure où de la taverne, en sortant main gogotier, emprunte souvent la lanterne du chiffonnier. Arpentons avec vitesse, dans l'horizon j'aperçois le vieux palais où luttaient jadis héberger ses rois. Mais la basoche y gouverne, la basoche, c'est la police du procureur, la basoche y gouverne pour fouiller dans son bourbier, muse approche un peu la lanterne du chiffonnier. Et l'envoi de cette chanson, je vous le lis, pardon, excusez-moi, j'ai été trop vite. L'envoi de cette chanson, oui, pour palper les artères de notre corps social et des humaines misères pour éclairer l'arsenal, il naît de lumière externe qui vaille le vieux foyer, s'illuminant dans la lanterne du chiffonnier. Il me semble que comme si elle prenait in extremis conscience de la proximité entre chiffonnier et chansonnier, cette chanson commente à la fois leur coexistence historique et ses enjeux poétiques. Si le goguettier et ses chansons sortent des mêmes cabarets que les chiffonniers, et si les chansonniers peuvent emprunter, au sens littéral, la lanterne des chiffonniers pour trouver leur chemin dans les rues de Paris, ils doivent aussi, au sens métaphorique, regarder et montrer ce que seuls les chiffonniers peuvent voir, c'est-à-dire les traces matérielles et sensibles d'une réalité sociale souvent ignorée et comme invisible. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup d'avoir apporté ce nouveau corpus à ce cours. Il y a donc là, en effet, une mine dans le rapport entre chiffonnier et chansonnier. Je suis content aussi que vous ayez évoqué la goguette, parce que j'ai évoqué plusieurs fois les goguetiers sans jamais trop y insister. Comment ? Oui, mais asseyez-vous là, oui. Et donc, on les retrouve, et vous en aviez un peu parlé. Il y a le caveau, que je crois que vous avez évoqué à un moment, parce qu'il y a à travers la goguette, il y a une transition qui se fait entre la chanson populaire et un certain nombre de milieux poétiques plus... comment dire, plus avancé, plus privilégié. Hein, j'avais trouvé dans Le Caveau un certain nombre de chansons qui étaient sans doute moins populaires.
Oui, effectivement.
Poussé sur le... là-dessus.
Très bien. Oui, effectivement, Le Caveau est en fait plus ancien que les goguettes, puisqu'il date du premier tiers du XVIIIe siècle, mais effectivement, c'est la société chantante des élites, hein, et donc... Tout à fait, les participants du caveau sont des gens qui sont d'un milieu social plus élevé que les chansonniers des goguettes, effectivement. Et les trois chansons qui se trouvent dans les archives du caveau sont à chaque fois des descriptions finalement assez cocasses du chiffonnier, mais avec beaucoup moins de présence de termes d'argot et de détails pittoresques en fait, que dans les chansons qui sont écrites par les goguettiers.
Oui, ce que vous avez montré là, il y a une utilisation beaucoup plus grande de l'argot, en effet. Donc, ce qui est intéressant, je dirais, enfin, pour moi, de mon point de vue, c'est la confirmation que le chiffonnier s'est véritablement extrait de tous ses collègues ambulants. Il y a le chiffonnier et le chiffonnier. Enfin, vous avez le chiffonnier et le chansonnier. Je crois que vous avez évoqué une fois une chanson où on voyait le vidangeur.
Il y avait oui, il y a le vidangeur
une
aussi.
Occurrence du vidangeur.
En fait, j'ai pas pu la commenter parce qu'on manquait un petit peu de temps, mais c'était une chanson de Ponty, en fait.
C'est une chanson.
Une chanson de Ponty,
de
Louis-Marie Ponty.
Oui. Oui.
Qui évoque le vidangeur et qui en fait du vidangeur celui qui va purger toute la vanité de Paris à travers les fosses d'aisance.
Oui. Et puis alors l'autre point qui m'a bien intéressé, c'est ce rapport que vous faites avec la grande époque qui est en effet de la Restauration et de la Monarchie de Juillet. Alors que vous aviez l'air de dire que dans cette périodisation de la chanson de chiffonnerie, ça allait jusqu'au début du second.
Oui, ça va jusqu'à la toute fin de la Deuxième République en fait.
Oui.
Alors, à mon avis, c'est intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est l'âge d'or de la chanson d'ouvriers, comme c'est l'âge d'or aussi de la poésie des ouvriers. C'est pendant cette période-là que paraissent les deux grandes anthologies de poésie ouvrière. Et il se trouve aussi que c'est l'âge d'or de la chanson ancienne manière, j'ai envie de dire, puisque ce n'est pas encore la chanson de concert telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, c'est la grande période des airs réutilisés, ce qui est aussi très intéressant, puisque donc la chanson réemployait les airs, réemployait aussi les cris des marchands de Paris. Habit galon, c'est d'abord une chanson le refrain d'une chanson de Béranger sur un marchand d'habits de la capitale. Et cette chanson de Béranger réutilisait le cri des vendeurs d'habits. Donc, la chanson réutilise le quotidien de la vie parisienne. Et également, la chanson réutilise les airs qui sont utilisés par d'autres chansons. Donc, il y a aussi toute une poétique du réemploi qui, forcément, relie aussi un petit peu, en plus du milieu social, la production de chansons avec la chiffonnerie.
Mmh. Donc, il y a les mêmes lieux, la même grande époque. Et alors, vous disiez... Donc, bon, il y a tout, vous avez montré, mais c'était un peu rapidement vers la fin, c'est... Les débuts de la liberté de la monarchie de Juillet, qui sont le grand moment de la caricature, enfin en 1830-1835, en gros. Est-ce qu'il y a, à partir de 1935, la même répression de la chanson, qui est une expression politique subversive, comme la caricature ?
Alors oui, la chanson, effectivement, connaît une certaine répression. Aux alentours des années 1835, mais
quand même, elle reste assez libre jusqu'à... Bon, il y a le grand moment de liberté et d'effervescence qui est évidemment les mois qui suivent février 1848. Oui. Hein, mais elle reste finalement un peu plus libre à ce moment-là que ce qui va se passer à partir des années 1849. Même si les réunions sont toujours censurées, etc., il y a quand même une possibilité de publier des chansons qui est plus grande qu'elle ne le sera par la suite à partir des années 1851, pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il y a la création de la SACEM aussi à ce moment-là, et que donc on ne peut plus publier des chansons sur des airs préexistants, sauf à prendre des airs très anciens, etc., pour des questions de droit. Ouais. Voilà. Mais pour des raisons politiques, oui, elle est très contrôlée et très surveillée, effectivement. Et dès qu'il y a quelque chose comme des attentats ou des éléments qui mettent en danger l'ordre parisien, elles sont évidemment les premières visées.
Et on retrouve la remarque que je faisais tout à l'heure à propos de la souricière. La souricière qui est le nom de du cabaret prototypique de chansonnier, de chiffonnier, très contrôlé, devenant souricière sens du piège policier.
De ce point de vue-là, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai parlé de Montier, qui était le tenancier du cabaret appelé l'Assommoir. Et alors Montier était censé être un indicateur de police. Oui. En tout cas, c'était la réputation qu'il avait, et donc les chiffonniers se moquaient beaucoup de lui pour cette raison-là, hein, puisqu'on disait qu'effectivement, il donnait des renseignements sur toutes les réunions chantantes qu'il y avait chez lui. Oui. Ça, c'est Bayet qui le dit dans ses extraits de l'histoire de la goguette.
Dans les mystères de Paris, celui qui tient un cabaret est aussi un indicateur de police.
D'accord.
Les deux activités sont à peu près fatalement associées.
Oui, tout à fait. Et il y a plusieurs anecdotes comme ça de chansonniers et de cabaretiers qui sont surveillés par la police parce qu'ils appellent évidemment les mouchards, qui les suivent et qui essayent de traquer leurs chansons, etc. Mais ils trouvent toujours plein de subterfuges pour arriver à changer d'endroit, à faire les réunions dans des cabarets différents pour être sûr de ne pas être surpris au même endroit que la semaine précédente.
Je me disais qu'ayant fait une thèse sur les chansons, vous alliez nous chanter quelques chansons.
Alors, c'est la question, si redoutée et si justifiée. Évidemment, quand il est question de chansons, je peux vous chanter un petit bout de la chanson de Vinçard.
Oui, c'est ce que j'aurais
voulu. Je vais prendre le texte. Donc, sur l'air de « C'est un long là, l'an de Rirette », je vous fais peut-être le premier couplet. D'une verve hyperbolique, baissons le diapason, un trop grand feu poétique effarouche la chanson. Par lui le clair devient terne, hors muse du chansonnier. Pour aujourd'hui, prends la lanterne du chiffonnier. Ouais.